La Bible enseigne que Dieu connaît toutes choses. Et nous nous sommes habitués à l'idée que Dieu connaît toute notre vie. Il sait tout. Notre vie est devant lui comme un grand panorama qu'il peut admirer d'un seul coup d'œil. Il connaît le début, il connaît la fin. Et il est pour nous rassurant de savoir que Dieu connaît la fin de toute chose dès le début. Dieu sait tout. Nous parlons de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il connaît même les choses secrètes et cachées. Dieu sait tout. Et cependant, ce matin, j'aimerais vous suggérer qu'il y a quatre choses que Dieu ne connaît pas. Il y a, je crois, quatre choses que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Nous parlons souvent des petits péchés et puis de nos grands péchés, comme s'il y avait une échelle de valeur. Nous parlons de nos péchés mignons. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 13, au verset 23, Dieu nous rappelle une réalité, c'est que le péché est en rapport direct avec notre nature. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 13, au verset 23, il est écrit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Par notre nature humaine, nous avons l'habitude de faire le mal. C'est une habitude. C'est ce que nous faisons naturellement. Et on est étonné de trouver dans les Écritures des conseils que Dieu nous donne qui nous paraissent a priori inutiles, mais si Dieu les donne, c'est qu'ils sont nécessaires. Par exemple, dans le livre des Psaumes, dans le psaume 97 au verset 10, il est dit ceci, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Est-il nécessaire de donner ce conseil à ceux qui aiment Dieu ?» Ça semble pourtant nécessaire précisément parce que nous sommes attachés au mal. Le mal est attaché à nous et c'est par habitude que nous le pratiquons. Dieu cependant ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Parce que le péché est fondamentalement étranger à la nature de Dieu. Non pas que Dieu ne sache pas ce que c'est, mais le péché lui est totalement étranger. Il en a horreur, mais il en connaît surtout le prix. Nous ne connaissons pas le prix du péché. La mort que nous connaissons n'est pas le prix entier du péché, mais Dieu connaît le prix entier du péché, car il a payé en Jésus-Christ, si l'on peut parler ainsi, le prix de ce que coûte le péché. Dans la première épître de Pierre, il nous est rappelé au verset premier ce que coûte le péché. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 18, dit ceci. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Le péché a coûté si cher à Dieu qu'il n'y a pas de péché dont il n'a pas horreur. Le péché est entièrement haïssable pour lui. » On pourrait prendre plusieurs images pour expliquer, pour nous aider à comprendre à quel point le péché est pervers et haïssable aux yeux de Dieu. J'aimerais prendre simplement parmi beaucoup d'autres une image. Il paraît que c'est ainsi que les Esquimaux attrapent les loups. Ils prennent un couteau qu'ils aiguisent admirablement. Ils en font une lame de rasoir. Et puis, ils vont mettre du sang sur ce couteau et le faire geler. Et lorsqu'il y aura une couche de sang gelé sur la lame du couteau, ils vont remettre du sang et le faire geler à nouveau pour faire une deuxième couche de sang gelé. Et puis, ils vont faire ça deux, trois fois, jusqu'à ce que la lame soit bien emballée de sang gelé. Et ils vont mettre ensuite ce couteau, la lame en l'air, le manche dans la glace. Les loups vont être attirés par l'odeur, par le sang. Ils vont venir et ils vont lécher le sang qui est gelé. Et le sang va les exciter. Ils vont lécher ce sang avec de plus en plus d'avidité. Et ils vont lécher tout le sang gelé qui est autour de cette lame. Mais comme c'est du sang gelé, le froid va dans un sens endormir leur langue. Et ils vont continuer à lécher cette lame sans se rendre compte que finalement c'est leur propre sang qu'ils boivent avec tant d'avidité. Et à force de boire leur sang, leur propre sang, ils perdent leur force et ils tombent. C'est une image du péché qui nous attire, qui nous excite, qui nous fait envie et qui a en même temps cette faculté de nous tuer. C'est justement cela dont Dieu a horreur. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Parce que le péché, c'est précisément ce qui va tuer ses enfants, ceux qu'il a créés à son image. Il n'y a pas de péché dont Dieu n'ait pas horreur. Et dans sa parole, plusieurs moyens sont utilisés pour nous faire comprendre que Dieu a une haine profonde de tous les péchés. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, se trouve une énumération qui nous fait comprendre que l'auteur de ce livre veut parler de tous les péchés. Suivez avec moi la lecture dans Proverbes chapitre 6, verset 16. Il est écrit ceci. « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Il ne s'agit pas là des 7 péchés capitaux, bien entendu. Vous avez là une liste de 6 et même de 7. Cette formule nous fait comprendre que par ces 7 choses, l'auteur essaye de nous expliquer que ce sont tous les péchés, toutes les formes du mal dont Dieu a horreur. En effet, nous ne pouvons jamais dire que le péché n'est pas grave à cause de ce qu'il a coûté à Jésus-Christ. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Il y a une deuxième chose que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Évidemment, tout de suite à notre esprit vient ce texte que nous connaissons tous par cœur, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce texte dans l'évangile de Jean se trouve dans un contexte bien particulier. Juste avant se trouve la rencontre de Jésus avec Nicodème. Nicodème, un juif, un homme pratiquant, un homme pieux, un homme respectable, un homme respecté, un homme instruit, un homme influent, un homme qui donne l'image d'une vie pieuse, parfaite, et qui vient voir Jésus de nuit. Et à cet homme dont le parcours est parfait, Jésus essaie de lui faire comprendre qu'il a, lui, besoin d'un sauveur personnel. Et de l'autre côté de ce verset, Jean 3, 16, se trouve la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, une étrangère, une femme qui vit dans le péché et qui le sait, une femme sans instruction, une femme rejetée, de mauvaise réputation, qui vit mal, une femme dont nous ne connaissons même pas le nom, tant elle est méprisable, et qui va rencontrer Jésus de jour, en plein midi. Et à cette femme, Jésus va aussi lui faire comprendre qu'elle a besoin d'un sauveur personnel. Alors quelque part, entre ces deux extrêmes, entre cet homme au parcours parfait et cette femme au parcours épouvantablement scandaleux, il y a tous les quiconques que nous sommes, Tous ces quiconques que nous sommes et qui sont invités à croire en lui et à le recevoir. Or, nous n'avons pas ce parcours parfait de Nicodème, nous n'avons pas ce parcours épouvantable de la Samaritaine, et nous sommes quelque part là, entre les deux extrêmes, mais tous ont besoin d'un sauveur. Et Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. La Bible est remplie de ces récits qui nous font découvrir des hommes et des femmes dont la situation nous paraît si désespérée qu'il nous semble impossible qu'ils puissent répondre à l'amour de Dieu. J'aimerais en mentionner juste quelques-uns. Je pense à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est ce roi païen, orgueilleux, stupide et méchant. Il nous semble qu'il lui soit impossible d'avoir accès au royaume des cieux. Il en est tellement loin. Et pourtant, je vous propose de lire ce qu'il écrit lui-même dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 4. Vous remarquerez que ce chapitre n'est pas écrit par Daniel, mais il est écrit par Nebuchadnezzar lui-même, qui rend ici son témoignage. À la fin de ce chapitre, au verset 37, Nebuchadnezzar dit ceci. « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Comment donc cet homme a-t-il pu en arriver à cette conversion si profonde? Lui qui disait « moi et encore moi et pour ma gloire à moi », il dit « je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux ». Mais il a fallu que Dieu littéralement traîne cet homme dans la boue pendant 7 ans et qu'il soit comme un animal avant de pouvoir réaliser la puissance et la patience de l'amour de Dieu envers lui. Je pense à David. David qui d'un côté est capable d'avoir une foi suffisante pour combattre le géant Goliath, mais qui des années après est capable de commettre coup sur coup, adultère, meurtre, infamie, les uns et les autres pour cacher ses péchés. Mais David a vécu lui aussi une véritable repentance. Il l'a écrit dans ce psaume 51 que nous avons dans nos Bibles, et qui est un texte admirable dans lequel il se présente à Dieu dans la vraie repentance pour obtenir le pardon de ses péchés. Je pense à l'apôtre Paul, cet assassin, ce persécuteur de l'Église, un homme intelligent et malin pour détruire l'Église, un homme d'un dynamisme extraordinaire pour aller tuer ceux qui ne sont pas du même avis que lui. Et lui seul sait combien il en a fait périr pour défendre ce qu'il croyait lui être la vérité. Lui-même écrit dans sa première épître à Timothée, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Comment est-il possible qu'un homme comme Paul, un persécuteur si acharné des disciples de Jésus, puisse lui-même devenir le défenseur du salut par la foi en Jésus? Et nous pouvons le lire dans les épîtres que nous avons encore dans notre Nouveau Testament, signé de sa plume. Est-ce possible? Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Et pour prendre un exemple plus contemporain, Valeriu Curin était considéré comme le 4e criminel le plus dangereux en Roumanie. Il a 33 ans, il était impliqué très largement dans le crime organisé de ce pays et il a été condamné à la prison à vie. Dans sa prison, il a trouvé une Bible qu'il a lue. Et finalement, le 21 juillet de cette année, Valeriu a été baptisé. Il avait, à cause de sa bonne conduite, la possibilité, après 20 ans, d'être mis en liberté conditionnelle. Et finalement, sa situation a été révisée et on lui a proposé d'avoir une liberté conditionnelle après 11 ans de prison. Après avoir été baptisé, Valeriu a renoncé à ce privilège. Il préfère rester en prison pour le reste de ses jours, renoncer à son droit à la liberté, parce qu'il veut rendre témoignage du Jésus-Christ qu'il a rencontré en prison. Est-il possible que ces gens puissent recevoir l'amour de Dieu et être changé par lui. Les exemples du passé sont nombreux, les exemples d'aujourd'hui le sont aussi. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, se trouve un texte où Jésus essaye de nous dire la même chose. Évangile de Matthieu, chapitre 21, nous lirons à partir du verset 31. Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » C'est un texte que l'on a souvent abusé et déformé, en disant que finalement ce que font les publicains et les prostituées n'est pas si grave que ça, qu'ils hériteront de toute façon du royaume des cieux eux aussi. On a souvent employé ce texte pour faire comprendre, à tort évidemment, que ce que font les gens de bien n'a guère plus de valeur que ce que font les gens de mal. Mais Jésus ne dit pas cela. Jésus essaie de faire comprendre que si nous sommes arrivés même au point des publicains et des prostituées, le royaume des cieux est à notre portée. Si nous tendons vers Dieu la main de la repentance, c'est là la condition. Et il le dit dans le verset suivant, « Vous saviez tout, vous avez vu, vous n'avez pas cru en lui. » Eux, ils ont cru et ils se sont repentis. Jésus n'est pas en train de dire que le royaume des cieux sera plein de publicains et de prostituées. Il est en train de dire qu'il sera rempli de tous ceux, qui qu'ils soient, qui seront passés par la repentance. C'est-à-dire qui, par la repentance, auront tendu la main et saisi l'amour de Dieu. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu faisait cette promesse extraordinaire quand on y pense. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, Dieu disait à son peuple, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Un amour éternel, Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Mais il y a une troisième chose que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas de péché qu'il ne puisse pardonner. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, l'apôtre Paul nous rappelle cette vérité d'une façon très claire. Épître aux Hébreux, chapitre 7, au verset 25, il est écrit ceci. Hébreux, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il, et il parle ici de Jésus en tant que souverain sacrificateur, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est une manière de dire que ce que Jésus a fait est amplement, largement suffisant pour résoudre le problème du plus grand des péchés dont nous puissions être l'auteur. Ce que Jésus a fait est amplement suffisant. Dans le psaume 103, vous connaissez ce que le psalmiste dit. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Le Seigneur a la capacité, le pouvoir de pardonner toutes nos fautes. Dieu ne connaît pas de péché qui ne puisse pardonner. Dans la première épître de Jean, je vous propose de suivre avec moi ce texte que Jean écrit au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La Bible nous enseigne que Dieu est infiniment plus grand que le plus grand des pécheurs. Que le sacrifice de Jésus est infiniment plus grand que le plus grand des péchés. Et que Dieu ne connaît pas de péché qu'il ne puisse pardonner. Il nous est difficile de comprendre la puissance et l'étendue de la grâce de Dieu. Dans le livre Vers Jésus, je lis ce paragraphe. Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu'à la stature d'homme et de femme en Jésus-Christ. Vous avez remarqué, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. C'est dire que Dieu répand sur nous sa grâce alors même que nous en sommes inconscients. C'est dire que Dieu nous propose une grâce dont nous ne connaissons pas les limites. C'est dire que Dieu nous propose une grâce dont nous avons en main, nous-mêmes, les limites. Dans notre désir de la recevoir, dans la repentance et dans la conversion. Dans un livre où elle parlait de ce texte de Michée, chapitre 7, Corrie ten Boom écrivait un petit paragraphe que j'aimerais vous lire. Vous connaissez ce chapitre 7 de Michée où il est dit que Dieu va jeter nos péchés au fond de la mer. Corrie ten Boom écrivait ceci. Quand j'apporte mes péchés au Seigneur Jésus, il les jette au fond de la mer. Ils sont pardonnés, oubliés, et sur le bord, Dieu met un écriteau, pêche interdite. Dieu ne connaît pas de péché qu'il ne puisse pardonner. Mais il y a une quatrième chose que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant. Et nous sommes tous pris, tous victimes de ce désir de remettre à plus tard et à plus tard ce que nous savons devoir faire maintenant et qui nous demande un sacrifice, un effort qui nous embarrasse, qui nous gêne ou qui nous dérange. La procrastination, c'est aussi la maladie du chrétien. Il y a bien des choses que nous connaissons et que nous remettons à plus tard, et à plus tard, et à plus tard encore. Lisez avec moi, voulez-vous, dans l'épître de Paul aux Hébreux, nous lirons à partir du verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Et un peu plus loin, verset 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Dieu a un moment, c'est maintenant. Dieu a un jour, c'est aujourd'hui. Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant. En effet, le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est un peu, pour certains d'entre nous, comme si nous avions reçu un coup de téléphone et que pendant ce téléphone, cette conversation que nous avons avec le monde, avec nos intérêts, avec notre business, nous avons reçu un autre coup de téléphone, celui du Christ, à qui nous avons dit « Écoute, je suis sur l'autre ligne, tu peux attendre un moment ?» Et il attend, et il attend. Et nous continuons notre business, nous continuons nos affaires, nous continuons notre conversation avec le monde, avec notre monde, avec ce qui nous occupe et ce que nous aimons. Et Jésus est toujours sur la ligne à attendre. Combien de temps est-ce que nous allons le laisser sur la ligne d'attente? Le meilleur moment, c'est maintenant. Le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. Et Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant. Pour nous, dans notre esprit, demain sera un meilleur moment. Mais nous savons déjà que le travail que nous n'accomplissons pas dans ce moment présent relativement facile, nous devrons l'accomplir de toute façon dans un temps bien plus difficile. Le moment maintenant, c'est le moment où Dieu voudrait nous voir laisser et mettre de côté ce qui est une entrave à notre vie chrétienne. Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant pour tous ceux d'entre nous qui n'ont pas encore eu le courage de dire oui à Dieu et qui lui ont dit « Attends, attends ». Mais jusqu'à quand ? Demain sera-t-il un meilleur moment pour dire oui à Dieu et recevoir Jésus comme notre sauveur personnel ? Demain sera-t-il un meilleur moment ? Si Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant, comment pouvons-nous dire que pour nous demain sera meilleur ? Et pour ceux qui ont déjà accepté Jésus comme leur sauveur, il nous reste peut-être encore à laisser, à mettre de côté ce qui met une entrave pour que le Seigneur nous permette de faire un pas de plus dans notre vie chrétienne. Celui qui consiste à nous approcher de lui, à laisser peut-être notre orgueil de côté, à enlever ce que nous avons gardé qui lui a interdit certains endroits de notre vie ou de notre cœur. Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant. Ainsi, Dieu connaît tout, mais il y a quatre choses que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Dieu ne connaît pas de péché qui ne puisse pardonner. Et Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant. Amen.